Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Prestart Button. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Xélan.
Yeah.
Nous sommes en compagnie de Sabaka.
Salut.
Donc voilà, ça c'était pour les habitués. Alors on accueille aussi avec nous pour son premier podcast, Prince of Persia, qu'on appellera Pop entre nous, qui est rédacteur sur le site, et un invité très spécial, une invitée, la première fille dans un podcast de Prestart Button, qui est notre invitée spéciale Zelda, c'est une grande fan, elle connaît très très bien la série. Nous accueillons avec nous Hurricane.
Salut tout le monde.
Alors, donc, on va faire comme on a l'habitude de faire avec les autres séries comme Mario et Sonic par exemple, on va retracer un petit peu un historique de tous les jeux qui sont sortis, en parlant de nos expériences aussi un petit peu, et on va commencer tout de suite par la naissance, et c'est Sabaka qui va nous en parler.
Oui, alors en fait, on a fait le premier jeu sur Zelda en 1986 avec Shigeru Miyamoto, qui a eu l'idée avec plusieurs autres concepteurs de jeux, et de le faire sur Nintendo Entertainment System, la première console de Nintendo.
D'accord.
Et ce jeu s'appelait The Legend of Zelda. Et on incarnait Link, qui devait sauver la princesse Zelda. Et en fait, ça a posé les bases, parce que la seule arme que l'on avait était une épée, qui parfois pouvait se lancer. On pouvait acheter pas mal d'autres objets, se balader et traverser des donjons pour finalement arriver vaincre le boss et ensuite sauver Zelda.
D'accord.
C'était vraiment la base, quoi.
C'était assez rudimentaire quand même pour l'époque, mais les bases étaient là.
Il n'y avait rien d'expliqué, en plus on nous lâchait comme ça dans la plaine.
D'accord. Donc assez brouillon, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Alors ensuite, on va parler donc tout de suite de Zelda 2, on va passer rapidement sur les débuts parce que c'était pas très très prometteur. Donc Zelda 2, qui a quand même posé là vraiment les bases pour cette fois-ci, c'est Pop qui va nous en parler plus précisément.
Donc en fait, c'est simple, les jeux de Zelda 2 est sorti en décembre 88 en prévision des fêtes de fin d'année, donc ce qui est une bonne habitude chez Nintendo. Et en fait, ce jeu, c'est lui, il a vraiment posé les bases de Zelda qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un RPG, RPG action où les monstres apparaissent au fur et à mesure qu'on avance. Mm-hmm. Et donc, ça, c'était plutôt pas mal, même si il y paraissait un peu décevant, parce que même si on avait des vues de côté et vues arrière, ce qui était plutôt une révolution. C'était un peu décevant, ça paraissait plus comme une mise à jour 1.5 du Zelda 1. Et donc, c'est ce que ça m'avait donné moi comme impression, c'était assez décevant en gros.
Ok, alors on va passer tout de suite jusqu'en 91, où là est sorti quand même l'épisode qui a révolutionné le genre du RPG action-aventure. On va parler de Zelda A Link to the Past, entre guillemets, Zelda 3. Je vais vous parler de ce titre qui est assez important dans la série puisqu'il a vraiment posé les bases par exemple des armes où on a vu l'apparition du boomerang, on a vu l'apparition de l'ocarina qui va faire des tas et des tas d'apparitions dans les autres jeux et qui va même prendre une grande importance par la suite. L'histoire, bon, quelque chose de tout bête, hein, la princesse de Zelda se fait encore une fois capturer. Il faut la sauver, passer par des donjons pour récupérer des armes et ainsi vaincre le mal. Et entre guillemets, entre parenthèses, récupérer l'épée Excalibur qui va nous aider justement à combattre le mal. Donc c'est de la vue aérienne comme dans Zelda 2, sauf que les graphismes sont beaucoup plus évolués vu que c'est sur Super NES. Et c'est coloré, c'est chatoyant, c'est très joli. On peut noter aussi que Link a les cheveux roses et qu'on saura jamais pourquoi. Mais il a les cheveux roses. On se retrouve donc dans le monde d'Hyrule, qu'on va retrouver aussi par la suite dans la série, avec déjà des personnages emblématiques comme les poules, qu'on peut taper à mort et ensuite se prendre la rébellion des autres cousines poules, et qui était quelque chose d'assez marrant dans le jeu, qu'on retrouve ensuite dans beaucoup d'autres Zelda. Quoi dire d'autre, il est assez similaire à Link's Awakening, sorti 2 ans plus tard sur Game Boy et Game Boy Color dans une version de luxe. C'est assez similaire, sauf que Link's Awakening, on se retrouve donc sur une île, on sait pas pourquoi, et Le principe du jeu est le même, le boomerang, le grappin, etc., etc. On a toutes ces armes, toutes les armes qu'on a eues dans par exemple A Link to the Past, on les a récupérées dans Link's Awakening, et donc le jeu est assez similaire, à part que les graphismes sont un tout petit peu moins bien, même si très très ressemblants. Que dire d'autre au niveau du scénario de Link's Awakening, il n'a rien à voir avec l'épopée d'Hyrule et Excalibur, c'est vraiment quelque chose à part, c'est une petite aventure à part. Et donc, je pense qu'il y a prescription, mais à la fin, on apprend tout simplement que c'était un rêve et que Link avait rêvé toute son aventure et qu'on s'était tapé des soixantaines d'heures de jeu pour un cauchemar à la con. Donc voilà. Et on va passer maintenant donc sur l'événement le plus important dans la série Zelda. C'est le passage à la 3D en 1998 sur Nintendo 64. Et là, c'est Xelan qui va nous parler un petit peu de ce Ocarina of Time mythique.
Alors, Ocarina of Time, dès la sortie de Zelda sur Super Nintendo, il a commencé à être développé.
À être développé, oui.
Oui. Et donc, à la base, il était pour la console Ultra 64. Donc on en faisait déjà la pub, et dès 95 on pouvait déjà voir des vidéos du jeu, donc sous ses premières versions, donc très très mal fait. Mm-hmm. Et donc quand le jeu est sorti, en fait, ça a été la révolution, parce que premier jeu en 3D, donc forcément le jeu en fait a été très très bien adapté. L'histoire en fait est partagée en deux temps, c'est-à-dire on est au tout début du jeu Link enfant, mm-hmm. donc qui ne peut pas posséder en fait les mêmes armes que Link adulte. Donc on va devoir trouver les trois médaillons. Donc, c'est une mission en fait qui nous est donnée par l'arbre Mojo au tout début de l'histoire. Et là, dans la deuxième partie de l'histoire, donc 7 ans plus tard, quand on est adolescent vers les 14 ans, on doit faire donc tous les temples pour réussir donc à sauver la princesse Zelda et battre le méchant Ganondorf.
Ok. Est-ce que Hurricane aurait quelque chose à rajouter sur ce Zelda?
Oui, notamment pour Epona, qui est très utile dans le jeu quand on est adulte, parce qu'elle nous permet de nous déplacer sur la plaine sans qu'on ait à marcher pendant des heures ou comme ça. Mm-hmm. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, après, quand on aura retrouvé les trois pierres, je veux dire la pierre Kokiri, la pierre Goron et la
les médaillons pierre... du temple du temps.
Oui. Et ensuite, en ouvrant les portes du temps, on prend l'épée de légende. Bon, ça s'appelle l'épée de légende, mais en fait, elle s'appelle Excalibur. On nous révèle pas le nom dans Ocarina of Time. Et donc, en prenant cette épée, Link va être plongé dans un sommeil de 7 ans. Et 7 ans plus tard, il va devenir adulte. Et pendant ces 7 ans, Ganondorf en a profité pour mettre le chaos sur tout le monde d'Hyrule. On retrouve des effrois sur la place du marché. Il retrouve des monstres dans la forêt Kokiri, le lac Ilia est asséché, des trucs comme ça.
D'accord. Donc vraiment des changements importants entre les deux époques. C'était vraiment ça le système révolutionnaire du jeu, je pense, à l'époque. Et le fait que le temps passe, qu'on puisse se balader dans la plaine d'Hyrule, que la nuit tombe, que ça influe sur les ennemis qui arrivent, qui vont nous aborder pour combattre, je pense que oui, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque. On n'avait jamais vu ça, un jeu qui gère le jour et la nuit. Ça a été le premier, je crois, et c'est pour ça qu'il y a eu un tel succès. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'aventure est très très longue et que les quêtes annexes sont très très sympathiques.
Oui, enfin, notamment aussi la quête des Sculptulators. Il faut en tuer un certain nombre pour délivrer une famille qui a été maudite. Et mm-hmm. en les délivrant au fur et à mesure, ils nous donnent un sac qui permet de transporter plus de rubis. Mm-hmm. Pour pour finir cette quête annexe, c'est vraiment très très long et il faut avoir l'œil pour trouver les scutulador parce qu'il y en a une centaine.
D'accord. Que dire d'autre sur ce jeu à part que bah c'est un monument du jeu vidéo et que ça a été vraiment une révolution pour tous les Zelda qui ont suivi. Alors on va passer au Zelda juste après, qui est Zelda Majora's Mask, et c'est Hurricane qui va nous en parler.
Alors donc Zelda Majora's Mask est sorti en l'an 2000, donc 2 ans après Ocarina. C'est le second Zelda qui est sorti donc sur Nintendo 64. Mm-hmm. Et en fait Majora's Mask est la suite directe de Ocarina of Time, c'est-à-dire après que Link ait envoyé Ganondorf dans une autre dimension à la fin de Ocarina of Time. Mm-hmm. Et donc il décide de partir pour d'autres contrées avec sa fidèle jument Epona. Et après des péripéties, parce que Skull Kid va enlever Epona et il va voler l'ocarina du temps de Link que Zelda lui a offert. Mm-hmm. Link va donc le poursuivre et il va arriver dans un autre monde qui s'appelle Termina. Et okay. En plus, Skull Kid va laisser un petit cadeau à Link. Il va transformer Link en peste mojo, donc ça fait qu'on ne peut plus utiliser le bouclier ni l'épée. Et en plus, quand on arrive dans Termina, on s'aperçoit que Termina est menacée par la présence de la Lune qui va s'écraser en 3 jours.
Donc ça change totalement le gameplay, le fait qu'il nous reste 3 jours pour sauver le monde.
Oui, parce que donc comme il nous reste seulement 3 jours, aussi, ce qui est bien avec ces 3 jours, enfin ce qui est bien, ce que je trouve bien moi, c'est que chaque personnage dans le jeu a son petit emploi du temps. Par exemple, le Milk Bar, il va ouvrir à telle heure, l'auberge va ouvrir à une certaine heure précise,
d'accord.
Petites choses comme ça.
D'accord.
Majora's Mask se présente comme plus difficile en fait que son aîné. Hein.
Ah oui, je confirme, il est très très dur Majora's Mask. Voilà.
En fait, quand on joue, en fait, le jeu nous montre tout de suite qu'on est censé avoir fini Ocarina of Time avant de le commencer.
Oui.
Parce que je l'avais essayé, j'ai été choqué par la difficulté, quoi. On est très vite agressé.
Oui, c'est vrai. Alors, tu voulais rajouter quelque chose, Hurricane?
Oui. Alors, ce qui est très novateur dans Majora's Mask, c'est le système des masques. C'est ça qui fait le jeu d'ailleurs. Par exemple, on a le masque mojo qui nous permet de se transformer donc en peste mojo et d'avoir des habilités de peste mojo. Il y a aussi le masque goron qui permet de se transformer en goron, de donner des coups de poing dévastateurs, faire des roulés-doulés ou des trucs comme ça. Et le masque Zora aussi qui permet de nager, de respirer dans l'eau, enfin... Voilà, aussi on peut utiliser ce genre des techniques de kung-fu, des choses comme ça. Il y a aussi d'autres masques, je vais dire des masques secondaires, comme par exemple, il y a le masque du lapin qui permet d'être plus rapide.
D'accord.
Ou bien il y a le masque de pierre qui permet d'être invisible aux yeux des ennemis.
D'accord.
Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Ah oui, par contre, dans Majora's Mask, aussi ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'épée légendaire. Parce
D'accord.
que dans Ocarina of Time ou Zelda Link to the Past, il y a l'histoire autour d'Excalibur. Et dans Majora's Mask, il n'y aura pas d'épée légendaire.
Ok.
Alors, en fait, dans Majora's Mask, toute l'histoire, Link reste enfant. Il ne passe pas adulte.
Oui. Ok, donc il y a qu'un seul gameplay.
D'ailleurs, il peut utiliser Epona assez tôt dans l'histoire. Je me souviens qu'on pouvait s'en servir assez tôt dans la trame.
L'histoire débute, il se fait voler Epona par Skull Kid. Skull Kid qui est d'ailleurs un personnage qui apparaît dans Ocarina of Time, donc bien avant.
Il était déjà là dans le bois perdu d'Ocarina of Time.
Voilà, et il y avait une quête annexe.
Plus tard dans Twilight Princess.
Oui, enfin son descendant.
Oui, voilà.
Dans les bois perdus, tout
le monde.
Voilà. Alors on va passer à un jeu sur donc console portable, sur Game Boy Color, à 2 jeux plus précisément, qui sont des histoires parallèles, qui se complètent mais qui sont totalement différents. On va parler de Oracle of Age et Oracle of Season, et c'est Pop qui va nous en parler.
Ouais, donc c'est vrai, ce sont des jeux dans la trame et plutôt parallèles, mais qui en vérité n'ont pas du tout le même terrain de jeu, ce qui varie selon la situation de laquelle on se trouve. C'est une sorte de Zelda Pokémon, en fait, puisque ça permet d'échanger des bonus dès qu'on a fini l'un des deux jeux. Mmh. Et donc là-dessus, c'était assez sympa. Sans compter aussi qu'il y a un truc tout aussi sympathique qui est le fait qu'on est accompagné de plusieurs animaux, en fait on a le choix. Donc on a soit une sorte de kangourou, soit une sorte de tortue, enfin amphibie qui vous transporte sur l'eau. Et l'autre, c'est plutôt une sorte de kangourou qui va vous aider à puncher vos adversaires ou encore à sauter trop haut pour passer d'une partie de la carte à l'autre, ce qui est assez... intéressant tout de même. Alors, ce jeu est vraiment une réussite. Mmh. Parce que, à la base, c'est exactement la même carte, mais que vous soyez sur Oracle of Ages ou Oracle of Seasons, ça change beaucoup de choses. Alors, Oracle of Seasons, selon le nom, donc saison, donc ça change les saisons et par contre le décor est modifié. Mmh. Ça a vraiment changé le gameplay. Par exemple, si vous voulez traverser un fleuve, il va falloir attendre que vous soyez en hiver et qu'il soit gelé pour le traverser. Ou sinon, cette même saison peut poser problème avec des avalanches ou des monstres en particulier.
D'accord.
Et ensuite...
Même principe pour Oracle of Age.
Oui, Oracle of Ages, mais cette fois-ci, c'est des bugs technologiques, chronologiques en fait. Avec des gros chamboulements.
Oui, selon le présent, le passé et le futur.
Ouais, voilà.
D'accord.
Et donc, ça influe beaucoup sur le gameplay du jeu, ce qui est assez sympa.
Ok.
Où, à un moment, on doit se munir de cette harpe. À un moment, surtout pour le deuxième ou le troisième donjon, c'est super important, parce que, à un moment, le donjon est détruit. Donc, c'est là qu'on découvre qu'on a la possibilité de retourner dans le passé, au moment où le donjon était encore sur pied, qu'on peut le faire, en fait.
Ok.
Donc, voilà.
Donc, ce jeu était plutôt une réussite et...
Ouais, plutôt une réussite. C'était le deuxième Zelda auquel j'ai joué. Et franchement, sur Game Boy Color, c'est indispensable. Hein. Donc, si vous le trouvez, il faut foncer.
D'accord. Eh bien, on va passer à Wind Waker... Pourquoi il a fait polémique? Parce qu'il était tout en cel shading, que Link avait un design assez différent, c'est-à-dire plutôt rondelet, tout petit, enfin un design assez dessin animé.
Un peu japonais, oui, un peu
oui,
manga.
Un peu manga, ouais, et puis surtout très. Enfin, c'était juste cel shading, mais très dessin animé, cartoon voilà. Aussi. Il avait beaucoup du cartoon. Et ça a fait vachement polémique parce que les fans attendaient ça au tournant et pourtant ils n'ont pas été déçus. Moi le premier parce que finalement il s'avère que c'est un très très bon jeu. Alors l'histoire se passe je crois quelques siècles après Ocarina of Time. Donc on va prendre comme référence Ocarina of Time. Hein. Donc ça se passe quelques siècles après, ça va avoir une influence déjà dans l'histoire. Un Link, comme on pourrait les appeler, dans un village lambda, comme d'habitude, on lui donne des habits verts et puis c'est parti quoi. C'est pour faire bref, c'est un peu ça. On lui donne une tunique verte et puis je me souviens plus trop de l'histoire, mais en gros il rencontre des pirates et donc.
Moi je la connais bien.
Vas-y Sabaka, explique bien l'histoire parce que je.
On se réveille le jour de notre anniversaire sur notre île. Notre sœur nous offre, notre grand-mère nous offre des vêtements, des pirates accostent et on doit sauver notre sœur qui était kidnappée par un oiseau géant sur un grand donjon où on kidnappait toutes les filles ayant des oreilles en pointe.
D'accord.
Je vais pas cacher le suspense, je ne dirais que ça.
D'accord.
Je ne
on se doute un petit peu. Donc voilà.
Enfin. Et finalement, on finit par décider de joindre les pirates pour aller la sauver, et ça va nous emmener dans une folle aventure sur plusieurs îles.
D'accord, alors donc là, le gameplay est exclusivement... Enfin, les déplacements se font exclusivement à dos de bateaux, donc de canaux plutôt. On rencontre un personnage intéressant dans la série qui s'appelle Dragon Rouge ou Lion Rouge.
Ah oui, c'est Lion Rouge, ouais, c'est un bateau.
Alors voilà, et Lion Rouge avec qui on peut discuter. Et on va utiliser la baguette donc de chef d'orchestre qui s'appelle la baguette du vent, quelque chose comme ça. Mmh. Et on va faire des mouvements pour diriger en fait le sens, le courant du vent en fait. Les courants marins et le souffle du vent pour nous diriger avec notre petit bateau à voile et sur différentes îles. Alors le monde est immense, très très, très grand. Et il y a beaucoup de subtilités et je pense que Sabaka va nous en citer quelques-unes.
Oui, alors en fait, les opus précédents ont tout reposé sur de la plaine. Cette fois, on est tombé sur de la mer. C'est une mer assez gigantesque avec une carte qu'on a divisée un peu comme une carte de bataille navale. Et on doit situer des îles pour aller les visiter et faire tous les donjons. C'est-à-dire, il y a l'île du dragon où on doit aller apaiser un dragon.
Ouais. Est-ce que niveau gameplay, je veux dire, pour tout ce qui est donjon, c'est comme Ocarina of Time? Et alors, niveau de l'équipement, c'est-à-dire est-ce qu'on a trois boutons pour trois armes, un bouton pour l'action et un bouton pour l'épée?
Alors, si je me rappelle bien, c'est à peu près le même principe, à part je crois qu'il y a, il y avait le stick et le Z.
Voilà.
Le fameux Z de la manette GameCube. Alors, il y a un truc qui change dans le gameplay, c'est vraiment le style de combat de Link.
Voilà, parce qu'il y a plusieurs techniques maintenant, hein, vraiment
voilà.
Plusieurs
on apprend des techniques d'épée, des choses comme ça. Alors tous les objets sont... Voilà.
On se concerne dans Twilight, ok.
Voilà.
D'ailleurs, il y a une petite quête annexe où on doit récupérer des objets, je ne me souviens plus du nom, c'est bête. Et je crois
qu'on doit... Ce sont des parchemins, je crois.
Non, pas des parchemins, je crois. Ce sont... on doit en rassembler 10, on doit les ramener à l'ancien de notre village, et nous apprendre une technique.
C'est des blasons d'épéistes en fait qu'il faut rassembler.
Ah voilà, des blasons.
Voilà.
Merci. D'accord. Et donc, en fait, le gameplay est beaucoup plus épique, beaucoup plus hargneux, c'est-à-dire que les coups sont plus rapides, il y a vraiment, vraiment des sortes de figures à faire qui nous permettent d'esquiver des coups. Enfin, il est beaucoup plus élargi, le gameplay, et beaucoup plus nerveux.
Oui, parce que les ennemis en cel-shading ne font plus vraiment très très peur. Hein. C'est limite s'ils font rire.
Voilà. Alors, justement, c'est de ça que je voulais parler. C'est que le jeu est rempli d'humour. C'est-à-dire que Link a déjà une tête. une tête... alors déjà, on a oublié de le dire, mais Link, durant toutes ses aventures, est muet. Alors déjà, ça l'arrange pas. Et peut-être dans ce Zelda-là que Link est le plus expressif. C'est-à-dire que rien que par ses mimiques de visage... On peut savoir ce qu'il pense et je trouve ça génial parce que
il
c'est vraiment.
Il dit souvent des hey ho.
Ouais yeah. Voilà. C'est-à-dire qu'il a pas un vocabulaire très très évolué.
Ah, c'est...
Il est pas muet parce qu'il crie. Mais on dirait. Enfin moi ce qui m'a toujours amusé dans les Zelda c'est qu'on dirait que le personnage subit ce qui lui arrive. C'est-à-dire que dans Ocarina of Time il lui arrive que de la merde quoi. Enfin il vit des aventures pas possibles pendant 60 heures de jeu et il dit rien. Il subit.
Il dit qu'est-ce qui m'arrive.
Oui c'est ça, c'est que moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête quand même. C'est-à-dire que quand le Goron lui demande d'aller sauver son fils, je me demande quand même s'il se dit pas putain il fait chier celui-là quoi.
Non, mais au fur et à mesure on se rend compte que c'est un autiste en fait Link.
Oui.
Il est asocial en fait dans l'histoire.
C'est un peu borderline quand même ça.
En fait moi il y a une chose qui m'a fait rire. C'est le jour où on finit le donjon d'une forteresse, on se réveille dans le bateau du Lion Rouge et tout d'un coup avec un petit flashback on arrive à voir la tête de Ganondorf en cel shading et je peux vous dire que c'était vraiment risible. Y'a rien à dire.
Alors Ganondorf a changé.
Ça faisait tout sauf sérieux.
Voilà, il est plus proche de ce qu'il est dans le scénario, c'est-à-dire un être mi-homme, mi-girudo, mi-cochon. Enfin, on sait pas trop, mais c'est vrai que les personnages sont vraiment atypiques et il y a pratiquement que des nouveaux personnages. Il y a le facteur, c'est l'arrivée du système des lettres, il me semble. C'est-à-dire qu'à partir de Wind Waker, on peut recevoir des lettres avec des objets dedans, le facteur vient de nous les amener.
Il me semblait que dans Majora's Mask aussi, il y avait le système des lettres.
Hein. D'accord. Donc
oui,
ça
on sort de Majora's Mask. Dans la plaine, on se faisait parfois aborder par le...
Ah d'accord. Okay.
Ah, et je tiens à ajouter qu'il y avait une autre nouveauté en parlant de magasin, c'est le magasin flottant de Terry.
Oui.
Ah oui.
Alors, le marchand Terry qui fait son apparition, qui reviendra après dans Phantom Hourglass. Donc, Wind Waker, très bon jeu de la série. Peut-être pas le meilleur, mais rempli d'innovations et les fans n'ont pas été déçus.
Mais d'ailleurs, lui, il profite d'une, pour la première fois, en fait, d'une des innovations de la GameCube, c'est la possibilité de relier avec la Game Boy Advance.
Oui, aussi, oui.
On pouvait relier avec la Game Boy Advance pour te faire aider, je crois.
Déjà, on avait un mini-jeu avec Tingle, il me semble.
Et, ouais, une sorte de... il permettait des repérages sur la carte aussi à un moment.
Oui.
C'était assez pratique quand on était bloqué. Ouais, je m'en souviens très bien, ça montrait une sorte de carte et ça nous permettait de trouver des indices. Enfin, ouais, il me semble que c'était ça.
D'accord.
C'est le premier exploitant en fait la connexion avec la Game Boy Advance. Après, ça sera Force One. Et okay. Link en Cell Shading, en fait, il a beaucoup marqué en fin de compte la série vu qu'on le retrouve oui dans Phantom Hourglass et dans le prochain Smash Bros, il remplace en fait Link enfant. C'est-à-dire voilà. On a Link de Twilight Princess et Link de Wind Waker.
D'accord.
Donc ils ont dissocié les deux personnages.
Et Sabaka, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, c'était à propos de Terry, parce qu'il y a pas mal de choses assez amusantes, presque que il y a énormément d'humour qui a été mis sur lui. C'est-à-dire que plus on achète, et plus on gagne des points. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fidélité client, où pour chaque article, on gagne un point client. Enfin, des fois, ça varie, mais bon. Il y a une chose qui est marrante, c'est qu'avec le nombre de points, on peut avoir... On peut être client d'argent, client de bronze, client d'or, oui. Client de platine.
Ah, mais la fidélité client, ça a été déjà dans Ocarina of Time. Quand on a mené certains fantômes
à l'esprit du château.
Il
nous donnait des points, lui aussi. Hein. C'était déjà ça.
Ah bon.
Ouais, c'était assez notable. C'était quand on était adulte, il fallait choper les fantômes dans la plaine d'Hyrule et lui ramener.
Dans des bouteilles.
Dans des bouteilles.
Et vu qu'il n'y a que 3 bouteilles, voilà les allers-retours.
Ouais, voilà.
Alors ensuite, on va passer donc un an plus tard, en 2004.
J'aimerais ajouter quelque chose pour Wind Waker.
Oui, vas-y,
Ricky. Il y a deux nouveaux peuples qui apparaissent. C'est le peuple des Piaf, mm-hmm. qui sont en fait les descendants des Zora. Et il y aura le peuple Korugu, qui est les descendants du peuple Kopirios.
D'accord.
Excusez-moi, mais je voulais rajouter aussi un petit truc en fait sur ce jeu. C'est c'est le Zelda en fait qui à mes yeux, je faut dire aussi que j'ai pas joué à Ocarina of Time ou Majora's Mask, m'a vraiment le plus changé en fait. Et ce que j'ai vraiment aimé là-dessus, c'est les petites pointes d'humour qu'il y avait et c'était vraiment super marrant. Surtout qu'il y a une scène qui m'a marqué, donc c'est quand Link s'écrase littéralement sur une muraille au début du jeu. Quand les pirates le catapultent sur l'île, en fait.
D'accord.
Et aussi en fait, ce que j'ai aimé, c'était les sorts de poissons qu'on appâtait avec les appâts de Terry. Et je dois avouer que j'ai vraiment aimé parce que ce sont des petites choses comme ça, comme les petits détails des poissons pour avoir la carte. Ou autre avec des petites mimiques sur ces animaux-là que j'ai adoré et franchement c'est vraiment l'année coup de cœur dans ma ludothèque.
D'accord. Alors.
Et aussi ce que je pourrais ajouter c'est que les cochons ont remplacé les poules.
D'accord. Oh. Ah c'est vrai qu'il y a plus de poules.
Ouais c'est vrai aussi.
Ok. Alors on va passer à Force World Adventure. Donc, qui est sorti en 2004 sur GameCube, et Xelan va nous en parler, puisqu'il l'a testé pour le site. Vas-y, Xelan.
Alors, Force World Adventure, à la base, c'était un mode additionnel, en fait, d'un Zelda sorti sur Game Boy Advance. Mm-hmm. Donc, quoi ?
Oui.
À la base, c'était juste un multijoueur, en fait, ajouté, donc c'était pas très pratique. Mais, sachant que ça a été assez apprécié, en fait, ils l'ont porté sur Nintendo GameCube et on... améliorer les graphismes. Alors, sachant que c'est un portage, ils ont une idée assez intelligente, donc je l'ai dit, en fait, c'est la connectivité avec la Game Boy Advance. Mm-hmm. Donc, c'est la possibilité de relier, en fait, jusqu'à 4 consoles Game Boy Advance à la Nintendo GameCube avec le fil. Et en fait, on joue en fait avec la Game Boy comme manette. On sert la Game Boy comme manette et comme écran supplémentaire. Donc c'est surtout en fait un mélange de jeux de coopération et de combat.
D'accord.
Et sinon, bah, en fait, graphiquement, ça ressemble aux précédents Zelda. En fait, c'est les mêmes images. Ça, ils ont pas trop innové de ce côté-là. C'est surtout au niveau du gameplay. C'est-à-dire, on a 4 personnages à contrôler. On peut les contrôler individuellement. On peut les regrouper par formation. Et on retrouve, bien sûr, la possibilité de changer d'arme. C'est-à-dire, on peut, par exemple, avoir la baguette de feu pour brûler les adversaires. Ça, c'est,
Moi, j'ai une question. Le Link qu'on retrouve dans cet épisode, c'est quel Link? Celui d'Ocarina of Time, de Wind Waker ou de Link's Awakening? C'est-à-dire au niveau du design du personnage.
Très bonne question, vu qu'il a en fait il a les mêmes graphismes que le Zelda de Minish Cap.
D'accord.
Donc je ne sais pas quel Link c'est.
D'accord.
Sûrement un petit nouveau en fait pour l'histoire, je vois pas lequel ça peut être.
Ok.
Sinon, les principes de temple sont les mêmes, c'est-à-dire on retrouve temple de feu, temple de l'ombre. Et d'ailleurs, le jeu en fait compte un monde de l'ombre, c'est-à-dire il y a le monde normal.
Mm-hmm.
Et on peut en fait rentrer dans le monde de l'ombre où on trouve plus d'ennemis et compagnie. C'est assez intéressant à faire.
Si, y a quoi. Okay. Oui, tu pouvais préciser aussi qu'on incarne plusieurs Link.
Oui, c'est pour ça que je dis coopération, c'est-à-dire on a 4 Link à contrôler, c'est pour ça qu'on peut contrôler 4 consoles.
Et d'accord. Donc,
le principe de formation en fait.
Ok. Mais ces links là, on peut les contrôler les 4 en mode un joueur aussi.
Oui, en mode un joueur en fait, on contrôle tous les links d'un coup, mais on peut aussi les contrôler séparément. Par exemple, on peut prendre. Ils ont chacun de couleur, c'est vert, rouge, bleu et rose-violet. On peut prendre le link vert, l'envoyer sur un interrupteur, prendre un link pour aller combattre les adversaires, pendant que l'autre prendra une arme.
Ok.
On peut les contrôler individuellement et par formation pour
un nouveau gameplay.
Donc oui, c'est un gameplay complètement différent.
D'accord. Alors, on va passer donc à Minish Cap, sorti en 2004 sur Game Boy Advance. Et c'est Yuriken qui va nous en parler.
Ok. Alors donc pour ce qui est de l'histoire, on va dire que le jeu commence dans la bonne humeur parce que. Il y a une fête qui est organisée dans la ville, sur la place du marché à Hyrule. C'est la fête des Minish, car tous les 100 ans, une porte secrète est ouverte et les Minish arrivent dans le monde des humains. Donc cette fête leur est consacrée. Et donc Zelda va inviter Link pour cette fête. Et il y aura donc un tournoi organisé par le roi d'Hyrule pour cette fête. Et lors de ce tournoi, il y aura un homme appelé Vaati qui va le remporter sans faire beaucoup d'efforts. Et
On le retrouve en fait dans Force World. Vaati, c'est également le méchant de Force World en fait. Il revient des ténèbres et il quitte la princesse Zelda. Et les différentes fées. Oui, c'est le même dans les deux
histoires. Puisque c'est le même Link apparemment.
Oui, voilà, c'est le même Link en fait. Ouais, ça va se passer dans un monde assez proche.
D'accord.
En fait, à notre heure actuelle, il y a, on va dire, 3 légendes différentes de Zelda. Il y a la légende qui entoure l'épée Excalibur, qu'on retrouve par exemple dans Ocarina of Time, dans Link to the Past.
Ah, Ocarina of Time, je suis pas d'accord, c'est l'épée de légende. C'est pas Excalibur.
Oui, mais c'est Excalibur.
Excalibur, on la retrouve dans Twilight Princess, en revanche.
Voilà, là.
Mais dans Ocarina of Time, oui, elle s'appelle l'épée de maître ou épée de légende, mais c'est Excalibur.
D'accord.
Et ensuite, ce que je voulais dire... Ah oui, alors donc, Vaati gagnera le tournoi, et il aura l'honneur de voir l'épée sacrée des 4. Et évidemment, il va en profiter pour la briser en morceaux. Et aussi de pétrifier Zelda au passage. Comme d'habitude. Et donc, Link va devoir reconstituer l'épée des 4 pour sauver la princesse Zelda, évidemment, et vaincre Vaati.
D'accord. Prince of Persia, avais-tu quelque chose à ajouter sur ce jeu?
Alors moi ce que j'ai adoré c'était le petit bonnet qui pouvait faire miniaturiser Link, donc franchement j'avais trouvé ça génial comme idée de miniaturiser Link, en fait, ce qui, l'air de rien, donnait beaucoup d'idées au niveau des décors. Je me souviens à un moment d'un niveau avec plein de noisettes sur le chemin, ça a dû me marquer. Et niveau graphique, j'avais adoré, puisque là, pour une GBA à l'époque, ça m'avait bluffé quand même.
D'accord.
J'avais possédé A Link to the Past et j'avais vraiment aimé le côté graphique de Minish Cap.
Ok. Alors on va passer donc jusqu'en 2006, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Et là on va passer sur 2 plateformes différentes, donc ça va être un petit peu compliqué. On va commencer par la version GameCube et après on va la comparer à la version Wii. On va parler de The Legend of Zelda Twilight Princess, donc qui est sorti sur GameCube et sur Wii. Donc je pense pouvoir parler de la version GameCube et Xelan après va nous faire un petit comparatif de la version Wii. Alors déjà, ce qu'il faut savoir dans la version GameCube, donc c'est que tout est dirigeable à la manette, au pad. C'est très bien fait. Les graphismes déchirent pour de la GameCube. On peut dire que la GameCube est carrément poussée à fond. Je sais quand j'y joue, j'ai la GameCube, il fait des bruits. On dirait qu'elle va sauter parce que c'est vraiment très très beau. On n'avait jamais vu ça sur GameCube. C'était un des derniers jeux sortis sur cette console. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ce jeu reprend l'univers d'Ocarina of Time, mais un peu plus tard. Même beaucoup plus tard, je crois quelques siècles après. Mais c'est le Hyrule qu'on connaît, avec le lac Ilia, les Aura, les Gorons, tout ce qu'il faut. Alors là, l'histoire est un peu plus compliquée. Le monde a été capturé par le monde des ténèbres et donc se retrouve dans le crépuscule. La princesse Zelda n'a rien pu faire et s'est retrouvée malgré elle princesse du crépuscule, donc Twilight Princess. Et on a avec nous non pas une fée mais une espèce de petit lutin qui s'appelle Midona, qui elle vient du monde des ombres et se rebelle donc contre ses maîtres et aide Link dans sa quête. La principale innovation de ce jeu, à part les graphismes et le gameplay qui est très proche de celui de Wind Waker, c'est la possibilité de se transformer en loup. On fait en gros 1h30 de jeu en Link à pied, en humain. Et au bout d'une heure et demie, on se retrouve transformé en loup. Et là, on a un gameplay tout nouveau. Plus nerveux, plus agressif, beaucoup plus sombre. Parce qu'on peut activer son sixième sens, donc sens olfactif. On peut sentir des odeurs, enfin... On les sent pas, on les voit, c'est assez visuel, c'est des effets de fumée. Voilà. Mais
en fait, on a Midona sur le
dos. Voilà, on a Midona sur le dos qui nous dirige, qui peut nous faire sauter plus loin, plus haut. On peut faire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en étant loup. Et à la moitié du jeu, en fait, on se retrouve avec le choix. On peut choisir si on veut devenir un loup ou un humain, enfin, Ilien plutôt. Tout au long du jeu, on peut choisir et selon le personnage qu'on choisit à tel moment, on a des capacités différentes. Donc c'est très utile, par exemple, pour se téléporter ou pour passer des passages un petit peu plus acrobatiques que seul le loup pourrait passer grâce à Midona.
Oui, parce qu'en fait, à la base, on se fait enfermer en étant humain et on est transformé en loup. En fait, c'est Midona qui va nous aider à sortir.
Voilà.
D'où le fait qu'après elle va toujours avoir une influence sur nous. Au départ elle va être très désagréable avec Link et au fur et à mesure elle va être plus sympathique et elle va bien nous conseiller.
Voilà. Alors on va pas trop raconter l'histoire parce que il y a beaucoup de rebondissements.
Ouais. Ah oui, bah l'histoire de Twilight Princess a beaucoup de rebondissements en effet.
Mm-hmm. Et ce qu'on peut préciser aussi c'est quand même que donc tout le monde d'Hyrule a été refait. Il est très 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 proche de celui d'Ocarina of Time. Il respecte vraiment Ocarina of Time, Link to the Past un petit peu aussi. Il y a des éléments puisque ça se passe à Hyrule, mais il y a vraiment ils ont repris vraiment l'essence de cette série. Donc comme le disait Hurricane de la série avec Excalibur. Ce qui m'a vraiment impressionné moi dans le jeu déjà, c'est la maniabilité, c'est quasi parfait. Il y a jamais un seul bug. Zelda, c'est réputé pour son gameplay, mais là, c'est vraiment poussé à son maximum. Et ce qui m'a vraiment aussi impressionné, c'est parfois les boss. Je me souviens du boss du temple du lac Ilia, donc qui est le temple des abysses. Le boss fait à peu près 60 voire 70 fois notre taille, et on se retrouve dans une sorte de, je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, Shadow of the Colossus. Donc c'est un jeu avec des colosses qui font pareil 40 fois notre taille à l'écran, et on se retrouve à devoir monter sur le dos de cette bête pour lui planter tel un pieu l'épée sur son œil, sur son point faible. Et c'est vraiment très impressionnant. Alors, le boss est très simple quand on a capté ce qu'il faut faire, mais visuellement c'est très beau, c'est très impressionnant. On se retrouve à être une toute petite tache sur l'écran avec une espèce de gros monstre pas possible. Enfin, j'ai vraiment été impressionné. Les temples sont très très bien faits, les énigmes sont encore plus recherchées. Il y a une nouveauté aussi, c'est la possibilité d'avoir deux grappins. Alors sur GameCube, on voit peut-être pas que cette nouveauté est utile, mais sur Wii, à mon avis, ça doit être quelque chose. Donc,
Xéan, si tu veux nous faire un petit peu. C'est un petit peu les plus choquants. Les boss, c'est un petit peu les plus choquants. Je retiens celui du temple du désert. Mm-hmm. On va pas trop en raconter. Mais en fait, on se retrouve avec, le problème, c'est sans trop vous en dire, on se retrouve avec une sorte de petit objet qui nous permet de se déplacer à une bonne vitesse et de faire des petites figures, en fait, un peu comme du skate.
Un skateboard.
Voilà, en fait c'est ça. Voilà, j'ai pas envie de te dire comment il est exactement parce que t'en es pas encore là dans l'histoire. Et il permet en fait de ripper sur les murs, sur certains murs en fait.
D'accord.
Et avec cela en fait, on va devoir affronter un boss super impressionnant vu qu'on doit à la fois gérer pour tuer le boss, esquiver ses attaques et rester sur les rails.
D'accord.
Et donc c'est assez impressionnant parce que si on tombe, on meurt.
Ah oui, bah ça c'est le game over, il est très fréquent dans Twilight Princess.
C'est radical en fait, mais. Je retiens oui.
D'accord. Et au niveau de la maniabilité, oui. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors la maniabilité, oui. En fait, c'était la première fois que j'ai essayé ce type de jeu. Mm-hmm. C'est super précis. C'est surtout pour par exemple l'arc, le grappin. Le jeu est super immersif. Ah, petite différence, Link est droitier.
Oui, tout était inversé apparemment entre la version GameCube et la version.
Alors toi, t'as essayé la version GameCube uniquement. Moi, j'ai fait jouer qu'à la version Wii.
Mm-hmm. Mais moi j'ai vu des vidéos de la version Wii et tout est inversé, il me semble.
Apparemment les deux jeux oui seraient inversés. Et en fait bon bah Wii oblige, on va faire des petits mouvements d'épée, donc par exemple un mouvement de Wiimote permet de donner un coup d'épée, on enchaîne.
Explique pourquoi Link est droitier, clairement.
Link est droitier parce que Nintendo l'a décidé.
Non, Link est droitier parce que la Wiimote se tient de la main droite. Tout bêtement.
Oui, voilà.
voilà.
Ouais, sur GameCube, c'est tout le contraire en fait. Il est gaucher et l'Est et l'Ouest sont totalement inversés.
Voilà. Oui, c'est voilà. Ce que je disais.
En fait, c'est un système. En fait, le jeu à la base a été développé sur Nintendo GameCube. Dès la sortie de Majora's Mask, ils ont commencé à développer le jeu pour la plateforme GameCube. Mm-hmm. Faut savoir, le jeu a été développé depuis environ 8 ans. Quoi. Ça doit faire pratiquement 10 ans qu'ils développaient le jeu. Ils l'ont porté donc une première fois sur GameCube. Et en fait, ils sont arrivés en fait à la Wii. Et ils se sont dit, bah, plutôt que de le sortir sur GameCube, on va le sortir sur Wii à la sortie de la console, comme ça on va avoir un gros succès. Mm-hmm. Et donc, le jeu, en fait, donc je le redis, il devait sortir sur la GameCube, il a été adapté. Et d'où, en fait, ce changement de côté, vu qu'ils se sont dit, ouais, là où forcément, Link est gaucher, la Wiimote se tient à droite. Comment on voilà. va faire? Bon, on va faire comme pour un Mario Kart avec le mode miroir. On va tout inverser. Voilà. Et c'est radical et ça marche.
Et quand on joue à la version Wii, à la version GameCube, forcément on est dérouté, on n'a pas l'impression de jouer au même jeu.
Oui, on n'a pas, ça fait tout bizarre, c'est comme un mode miroir de Mario Kart.
Voilà.
Mais le jeu a eu un, faut savoir que le jeu a eu énormément de succès. Hein.
Je crois oui, bah,
je retiens par exemple aux USA, mm-hmm. Lors de la sortie de la Nintendo Wii avec Zelda, près de 70% des acheteurs prenaient le jeu avec.
Oui. Et moi, je voudrais préciser quelque chose qu'on n'a pas précisé avant de passer à autre chose là. Je voudrais préciser aussi, on a oublié de le dire, mais Ocarina of Time est quand même dans le Guinness Book des records pour le nombre de ventes. Il est dans le Guinness Book des records de 99 et pour le nombre de ventes en un minimum de temps.
Je crois que c'est 8 millions d'exemplaires. Voilà.
Il fallait le préciser parce que c'était un passage important pour la série quand même, parce que pour un jeu vidéo rentré dans le Guinness Book des records. Voilà, faut le faire. C'est pas rien.
Ocarina of Time, oui, c'est le jeu qui s'est vendu le plus rapidement, en fait.
Voilà.
Et petit détail assez intéressant, en fait, tous les Zelda qui sortent ont toujours une version collector pour ceux qui les achètent dans les premiers jours.
Oui.
Par exemple, Ocarina of Time, la cartouche est dorée. Majora's Mask, la cartouche est dorée. C'est des cartouches plus rares, en fait.
J'ai un ami qui a la chance d'avoir une cartouche dorée de Ocarina of Time. Et je suis très jaloux.
Bah, moi, j'en connais un, c'est Majora's Mask. C'est forcément... On regarde, on se dit, tiens, j'aimerais bien la prendre, cette cartouche.
Voilà. Et là, on va passer au dernier jeu sorti en date, qui est sorti en 2007 sur Nintendo DS, qui est la suite directe de The Wind Waker, qui est Zelda Phantom Hourglass. Alors, Zelda Phantom Hourglass, c'est une innovation pure et dure. C'est-à-dire que ça ressemble à aucun autre Zelda. Ça ressemble à tous les Zelda, mais en même temps, ça ressemble à aucun autre Zelda.
Surtout à Wind Waker, en fait.
Voilà. Dans le sens où c'est pas vu vraiment de haut, c'est vu de trois quarts, mais de haut. C'est une vue aérienne de trois quarts.
Dans le sens des graphismes. Voilà. Dans le sens des graphismes, surtout.
Voilà. Dans le sens des graphismes, oui, c'est Wind Waker, c'est du cel shading, c'est la suite directe. Donc on retrouve le même personnage, les pirates et tout. Dans le gameplay, tout est au stylet. Mais alors tout, y a rien qui... Je crois que juste on se sert du bouton de la croix pour le menu, mais c'est tout. Tout est au stylet. Les déplacements, les combats, c'est un gameplay, comme d'habitude, quasi parfait. Et je pense que Sabaka, lui, qui a beaucoup joué, nous en dira plus sur tout l'univers du jeu... qui est vraiment exceptionnel. Non, Sabaka a l'air de pas trop vouloir nous en parler.
Sabaka est timide, de temps en temps, faut l'excuser.
Sabaka est décédé. Je crois que Sabaka s'est suicidé. Alors, je peux en parler tout seul. Alors, Phantom Hourglass, improvisation, un très bon jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Un petit défaut quand même. Voilà, déjà la durée de vie, et en plus le vrai défaut du jeu, c'est quand même le donjon chiant. C'est-à-dire qu'il y a un donjon qu'on doit refaire tout au long du jeu en descendant un peu plus loin, et ce donjon, en fait, le principe, c'est qu'il y a rien à faire à part s'infiltrer, esquiver des espèces de monstres. Et justement, donc on doit les esquiver, et donc arriver jusqu'à un certain étage où on va récupérer un peu de sable pour qu'on s'habiller fantôme, donc et donc qui va influer dans l'aventure, etc. Mais ce donjon est chiant dans le sens où on est obligé de le refaire du début pratiquement à chaque fois qu'on doit retourner à un étage inférieur.
Oui, Punky.
Oui.
Le principe du donjon où on s'infiltre, ça y est, dans énormément de Zelda.
Mm-hmm.
Alors, par exemple, il y en a qu'on aura le bol. Hein. Ocarina of Time.
Oui.
Quand on doit rentrer chez les Gerudo, on a une mission d'infiltration, on doit les attaquer à distance et pas se faire remarquer.
Et dans Zelda Ocarina of Time, il y a la mission aussi du château, on doit aller voir Zelda sans se faire remarquer.
Oui, et encore un dans Force Words. On a une mission, on doit aussi rentrer dans un château, et on ne doit pas se remarquer par en fait des lumières qui nous suivent. Donc il faut se dépêcher.
Faut pas oublier que dans Majora's Mask aussi, il y a une mission d'infiltration quand on doit récupérer les œufs de Zora.
Ok.
Mais ils ont tous en fait leur petite mission, pas se faire remarquer, pas s'en loose-dé.
Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'autre. On va en parler très très rapidement. C'est des spin-offs. Alors, déjà, Xelan, tu vas nous parler de Link Crossbow Training.
Alors lui, en fait, il est là pour faire la promotion du Wii Zapper. Donc c'est un jeu en fait à très bas prix vu qu'il coûte 30€. Et ça reprend le moteur graphique de Twilight Princess. Ils ont rien changé. Hein. Ils ont rien inventé. On voit pratiquement pas Link en fait. Sur chaque niveau, on l'utilise une fois et on doit le contrôler. C'est assez complexe à contrôler. Sinon, en fait, ça s'apparente à un simple jeu de tir, comme en fait le jeu de tir au canard. C'est-à-dire que c'est pareil, on tire sur des cibles. Une première mission, on tire sur les cibles. Et la seconde, on tire sur des ennemis. La troisième, on doit s'infiltrer. Donc, en fait, le jeu serait bon s'il serait long.
Mm-hmm.
Ils ont en fait zappé la durée de vie. On a l'impression en fait que c'est juste une démo technique pour
un mini-jeu.
Voilà, c'est une sorte de mini-jeu. Alors bien sûr, après on peut dire, oui, le but c'est d'obtenir la médaille de diamant partout. Mais voilà, même tout au plus, je pense que ça doit vous prendre 3 heures pour finir le jeu entièrement. Il reste ensuite un mode multijoueur qui est minable, vu qu'on peut même pas en fait tirer avec deux Wiimotes. Et on aurait pensé en fait à un mode multijoueur où par exemple on aurait chacun sa Wiimote et on tire. Or c'est pas du tout ça. Mm-hmm. C'est chacun son tour.
D'accord.
Alors un jeu qui aurait pu être bon, ça aurait, c'est en fait c'est le premier jeu FPS Zelda, mais voilà, ils l'ont fait un petit peu à l'arrache en fait, c'est.
D'accord. Alors moi je vais enchaîner sur un autre spin-off. Sur deux autres spin-off. Alors déjà très rapidement, signaler qu'il y a un spin-off, un réel spin-off qui est sorti sur le personnage de Tingle qui apparaît dans bon nombre de Zelda, qui est un petit lutin vert, qui s'appelle Tingle's Balloon Fight. Donc ça reprend le jeu, le principe du jeu Balloon Fight, mais avec en guest star Tingle. Balloon Fight, c'est un jeu où on doit éclater les ballons de son adversaire sans, en protégeant ses propres ballons. Et deuxième spin-off, c'est un truc qui est un peu moins connu parce que pas sorti en France. C'est sorti sur la BSX. Alors, moi non plus je ne sais pas ce que c'est, je me suis renseigné. C'est une extension à la Super NES et qui nous permettait de télécharger des jeux via le satellite, donc via le câble de l'époque. Donc on reliait ça à sa Super NES, on reliait la Super NES au câble et on pouvait télécharger des jeux. Alors ça n'a pas marché du tout, ça a été un bip total, c'était un petit peu le premier WiiWare. Et donc on pouvait télécharger donc une sorte d'add-on spin-off à A Link to the Past qui s'appelait Zelda Ancient Stone Tablets. Voilà, les anciennes tablettes de pierre. Et donc en fait le jeu n'est sorti qu'en japonais, il était divisé en 4 parties. Ces 4 parties comprenaient chacune 2 donjons. Et chaque semaine, il y avait une des 4 parties qui était téléchargeable. Et donc c'était sur 4 semaines, donc c'était un coup de promo. Ça a pas vraiment marché et en fait c'est une seconde quête relative à l'histoire de Link to the Past, mais ça se passe exactement dans le même univers, dans le même monde que Link to the Past. Voilà. Alors maintenant je vais vous poser la question fatidique pour terminer ce podcast. La question fatidique, c'est si vous ne deviez garder qu'un seul jeu de Zelda, lequel vous garderiez? Alors je précise, hormis Ocarina of Time, parce que sinon on sait que tout le monde va choisir Ocarina of Time, hormis celui-là, parce que celui-là même quelqu'un qui ne joue pas beaucoup le garderait. Donc hormis Ocarina of Time, lequel garderiez-vous? Vas-y, commence Sabaka.
Bon, alors je parlerai tout d'abord de Phantom Hourglass, c'est celui que je veux garder. Sans comparer aux autres Zelda, je pense qu'il est vraiment très très bon parce qu'il est placé sous le symbole de l'innovation. Parce que en fait, on exploite les deux écrans de la Nintendo DS. Par exemple, il y a un boss qui est invisible sur l'écran du bas, mais qu'on peut voir à travers nos yeux qui sont représentés sur l'écran supérieur. Mm-hmm. Ça peut donner des trucs vraiment incroyables. Genre, tu arrives le boss qui vient vers toi, et en fait, tu te fais smash au dernier moment quand t'as les tirés. C'est très embêtant.
Oui, je me souviens de ce boss.
C'est un crabe.
Oui. Il est très méchant celui-là. Il est très méchant et très dur à tuer.
Et il y a aussi un autre boss. Il y a deux têtes de dragon qui te foncent dessus. Tous deux de couleurs différentes, bleu et rouge. Qui aussi te lancent des espèces de boules de feu. Et je sais pas ce que c'est. Mais on doit utiliser le grappin pour les envoyer
vers l'autre tête.
Voilà, vers l'autre tête.
Mmh. D'accord. Alors, donc, pour toi, ça sera Phantom Hourglass. Alors, ensuite, on va demander à Prince of Persia s'il devait en garder qu'un.
Alors, le problème, c'est que j'hésite vraiment entre deux, donc qui sont Zelda DX, parce que j'ai vraiment adoré sur le coup. C'est vraiment la claque pour moi, niveau Zelda, c'était le truc parfait. Et sinon, pour le deuxième, ce serait Wind Waker, parce que c'est celui qui me... Le plus fun, franchement, je trouve, à mon avis.
D'accord.
Voilà.
Ensuite, Xelan, tu voudrais garder quel jeu?
Alors toi, tu m'as bouffé le jeu que je voulais dire, donc Ocarina of Time.
Oui, mais non.
On va en citer un autre, donc ça sera Twilight Princess, parce qu'il va dans la continuité de mon Zelda préféré, tout simplement.
D'accord.
Il n'y a pas de modification, vu que c'est... Je dirais en plus que c'est le premier Zelda de la Wii.
D'accord. Et peut-être le dernier, on sait pas, hein. On sait pas encore. Alors, Hurricane, la fan de Zelda, si tu ne devais en garder qu'un seul.
Alors bon, hormis Ocarina of Time, je garderais soit Majora's Mask, Soit Wind Waker, parce que Majora's Mask, j'ai beaucoup aimé le système de masque, où on pouvait se transformer en Zora, en Goron, en Mojo, et aussi avec les autres masques qui ont d'autres pouvoirs. Mm-hmm. Et Wind Waker, parce que c'est vraiment un jeu qui au départ, je sentais pas de l'acheter, parce que c'était à cause du cel shading. Mm-hmm. Alors... ça me disait rien de l'acheter, et bon, voilà, j'ai fait la gueule et tout. Mais après, quand je l'ai acheté, ça a été le coup de foudre. Ce jeu, il est plein de lyrisme. C'est magnifique. En plus, le personnage de Ganondorf est vraiment bien développé dans celui-là, alors, ça m'a beaucoup marqué.
Ok, donc, moi, si je devais en garder qu'un, je garderais Link's Awakening. Parce que ça a été mon premier Zelda, tout simplement, et que le fait qu'on arrive à la fin du jeu et qu'on nous dise que c'était qu'un rêve, ça m'a quand même bien troué le cul, et quand un jeu me troue le cul, j'aime bien ça. Voilà. C'est ainsi que se termine ce podcast Zelda, donc on va remercier tout le monde, et en priorité Hurricane, qui a bien voulu participer avec nous, malgré la longueur de ce podcast, et qui a tenu le coup quand même. Et... écoutez, on vous dit à bientôt pour un nouveau podcast, sûrement la semaine prochaine. Portez-vous bien, inscrivez-vous sur le forum et évidemment, bon jeu. À bientôt.
À bientôt. Ciao.
Au revoir.